studio Tamani, voici nos informations en français.
Et c'est avec Imran Akilo Maïga et Gagné Kanté pour la mise en onde. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Les neuf sages de la Cour constitutionnelle ont prêté serment lundi soir. Lors de la cérémonie, ils ont juré de travailler conformément à la loi. Des inondations ont frappé la commune de Meneka et ses environs. Pour le moment, aucun bilan n'est disponible. En attendant, des ménages touchés par le sinistre sont logés dans les écoles et des maisons encore dans l'eau. À Bourem, l'obtention des poches de sang est un véritable parcours de combattants. La ville ne dispose d'aucune banque de sang. La population est de plus en plus réticente à donner son sang. Le développement de ce titre dans un instant. La nouvelle Cour constitutionnelle est désormais opérationnelle. Ses nouveaux membres ont prêté serment hier lundi 10 août devant l'Assemblée nationale. La cérémonie s'est déroulée au Centre international de conférence de Bamako. Cette prestation de serment intervient après l'abrogation du décret de nomination des membres de l'ancienne Cour suite à un contentieux électoral. Moussa Malé Sissoko était sur place. Voici son reportage.
Je jure de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict respect des obligations de neutralité et de réserve et de me conduire en digne et loyal magistrat, c'est en ces termes que le désormais neuf sages de la Cour constitutionnelle ont prêté serment devant l'Assemblée nationale et la Cour suprême. Cette prestation de serment leur renvoie ainsi à leur devoir. Après la lecture du décret portant nomination des membres de la Cour constitutionnelle du Mali par la secrétaire générale de la présidence de la République, le procureur près la Cour suprême est revenu sur la biographie des neuf sages de la Cour. Dans son réquisitoire, il a rappelé les droits et devoirs des conseillers de la Cour constitutionnelle avant de les inviter au respect des textes judiciaires du pays. Cependant, avant le serment, ces neuf conseillers, trois femmes et six hommes, avaient déjà élu leur président à travers un vote secret. Il s'agit de Amadou Ousmane Touré, ancien chef de cabinet de la primature et vérificateur général. Cette prestation de serment de nouveaux membres de la Cour constitutionnelle survient après la dissolution de la Cour constitutionnelle le 11 juillet dernier par le président de la République, suite aux manifestations du M5-RFP.
Pour certains analystes, la première mission de la nouvelle Cour constitutionnelle sera de régler le contentieux électoral né des législatives de mars et avril dernier. Selon eux, cette tâche assignée à cette Cour ne sera pas facile au regard de la complexité de la crise électorale et de la divergence autour de son remembrement. Ibrahim Meïga est analyste, chercheur à l'Institut d'études de sécurité ISS Bamako. Il est joint par Moussa Malé Sissoko.
Bien entendu, des divergences sur le plan juridique par rapport à la capacité ou à la possibilité de cette Cour à examiner un arrêt qui a déjà été rendu par l'ancienne Cour. Est-ce que le président va continuer à maintenir la pression sur les députés qui appartiennent soit à son parti, soit à des partis alliés à son parti dans le cadre de la majorité présidentielle pour que ces derniers démissionnent? Sur le plan constitutionnel, bien entendu, le président peut encore procéder à la dissolution de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, l'obstacle principal qui se pose à cette dissolution reste tout de même un obstacle politique. Est-ce que le président est prêt à remettre en jeu sa majorité présidentielle? Est-ce qu'il est prêt à ouvrir, c'est-à-dire la mise en place d'une constituante qui peut éventuellement réduire les prérogatives du président de la République?
Appel à un nouveau rassemblement du M5-RFP aujourd'hui à la place de l'Indépendance. Il a été lancé dimanche par l'imam Mahmoud Diko qui invite les militants à la mobilisation générale. À partir de midi, les boutiques devraient être fermées. Le mouvement du M5 veut, à travers ce nouveau rassemblement, obtenir la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta et de son régime. Cet appel à la manifestation est lancé alors que la nouvelle Cour constitutionnelle vient d'être remembrée conformément aux résolutions de la CEDEAO adoptées à l'issue de son sommet extraordinaire consacré à la crise malienne. Les explications avec Ousmane Nyalibouli.
Le rassemblement de ce mardi sera donc la quatrième sortie du M5-RFP pour exiger la démission du chef de l'État. Le mouvement du 5 juin exprime ainsi sa colère face à ce qu'il appelle la mauvaise gouvernance, l'insécurité dans le pays et l'injustice née des dernières élections législatives. Pour le M5-RFP, il n'y a pas d'alternative. Ibeka doit partir. Hier, au cours d'une conférence de presse, l'imam Mahmoud Diko a invité les militants du M5 à une mobilisation historique. Ce nouveau rassemblement intervient alors que l'ultimatum de la CEDEAO pour l'application de ses résolutions a expiré. Parmi ces résolutions, l'organisation sous-régionale a demandé la démission de 31 députés dont l'élection a été contestée et l'organisation de nouvelles élections dans les circonscriptions concernées. La mise en place d'un gouvernement d'union nationale, le remembrement de la Cour constitutionnelle. Sur ces derniers points, les nouveaux membres ont prêté serment cet après-midi. Mais les 31 députés ont exprimé leur refus de démissionner car contraire à la Constitution selon eux.
La mission de la CEDEAO est arrivée hier matin à Bamako, conduite par son médiateur Goodluck Jonathan. Elle est venue suivre les propositions de sortie des crises qu'elle a proposées au Mali. Après avoir assisté à la prestation des membres de la nouvelle Cour constitutionnelle, le chef de la mission, Goodluck Jonathan, était hier chez l'imam Mahmoud Diko. Pour l'instant, rien n'a été filtré de cette rencontre. Aujourd'hui, il devrait également se rendre à Nioro du Sahel pour y rencontrer le shérif Bouye Haïdara. Retrouvez ces informations en consultant nos statuts WhatsApp au 76 62 88 51 ou appelez gratuitement sur Viamo 37 321. Elles sont également disponibles sur nos pages Facebook et Twitter. L'association malienne de procureurs et poursuivants suspend toute collaboration avec le ministre de la Justice entrant et de son cabinet jusqu'à nouvel ordre. L'information a été donnée hier dans un communiqué de la dite association. L'organisation dénonce la mauvaise gouvernance dans le domaine de l'administration de la justice, l'imposition des magistrats non méritants à la tête de la Cour suprême, entre autres. Cinq jours après les inondations qui ont frappé la commune de Meneka et ses environs, aucun bilan n'est disponible, ni du côté de la municipalité, encore moins de ses services techniques chargés d'évaluer la situation. En attendant, des ménages touchés par le sinistre sont logés dans les écoles et des maisons encore dans l'eau. À Meneka, Mohamed Ag et Sefatan nous fait le compte-rendu de la situation.
Comme lors des inondations précédentes, ce sont les écoles qui ont accueilli des dizaines de ménages obligés d'abandonner leur construction. Nanout Koutia, maire de Meneka, qualifie la situation de désolante.
Les ménages que j'ai eu l'occasion de visiter avec le gouverneur ont été logés au niveau des écoles. Vraiment, c'est désolant. Des maisons sont dans l'eau, des maisons se sont écroulées. Et de l'autre côté de la rive qu'on appelle les Sakane, toutes les populations ont déménagé. D'autres, aujourd'hui, sont sans secours.
Un responsable du développement social a indiqué hors micro qu'aucun chiffre n'est disponible et le recensement continue. Il précise que beaucoup des quartiers de la ville de Meneka et de nombreux sites sont concernés par ces inondations qui n'ont pas fait de pertes en vies humaines. L'indisponibilité des chiffres 5 jours après les inondations témoignent de toute la complexité et du doute qui entoure la gestion des inondations à Meneka. Les chiffres sont généralement très loin des réalités vécues. Le maire souhaite que les choses se passent de la transparence. Nanout Koutia.
Il ne faut pas faire l'amalgame. Recenser des gens qui n'ont aucune maison dans l'eau et qui n'ont aucune maison écroulée. En tout cas, c'est l'instruction qu'on a donnée au service des affaires sociales. On attend la suite.
Alors que des maisons sont toujours dans l'eau et d'autres inondations sont à craindre, le maire appelle à une aide d'urgence pour faire face aux catastrophes naturelles. Mohamed Ag Issa Fétan, Meneka, Studio Tamani.
À Bourem, impossible d'avoir des poches de sang dans les structures de santé. La ville ne dispose d'aucune banque de sang. La population est de plus en plus réticente à donner son sang. C'est là pour des raisons qu'ignorent les autorités sanitaires. Les forces armées sont depuis quelque temps le seul donneur de sang dans la localité. Une situation qui préoccupe les responsables des structures sanitaires. Le reportage de notre correspondant sur place, Tidjani Touri.
Avoir du sang au centre de santé de référence de Bourem est presque impossible aujourd'hui. Cette patiente, victime d'une hémorragie, en a appris à ses dépens.
Il y a eu un moment où j'ai beaucoup saigné. Je n'ai pu avoir que 2 poches de sang. On m'a prescrit des médicaments pour arrêter l'hémorragie. J'ai cherché des aliments qui m'ont permis d'avoir un peu de sang.
Au CCRF de Bourem, aucune poche de sang n'est à ce jour disponible. Pourtant, la structure est dotée de tous les dispositifs pour la conservation du sang. Selon le médecin-chef, cette situation s'explique par la rarité des donneurs bénévoles.
De mon arrivée depuis 2019 jusqu'à présent, je suis en train de chercher les moyens de mettre en place cette banque. On a des frigos solaires qui marchent 24 heures sur 24 en dehors de son moteur qui peut combler les heures creuses d'électricité. À présent, on n'a pas de banque de sang.
Depuis quelque temps, face à la réticence réticence de la population, les militaires sont devenus les seuls pourvoyeurs de sang, se réjouit le médecin-chef. Mais il estime que cela n'est pas suffisant.
Les seuls donneurs de sang qu'on a aujourd'hui, c'est les militaires. Et ils sont d'un apport très important. C'est le lieu de les remercier. Et il n'y a jamais eu de réticence. Et chaque fois qu'on a fait la demande, on a trouvé une réponse positive. Mais ce n'est pas une solution définitive. Je crois que c'est la population de s'organiser à donner du sang.
Dans la ville de Bourem, certains expliquent cette réticence à donner du sang par peur d'être contaminé. À ce sujet, le médecin-chef rassure que toutes les dispositions pour empêcher des contaminations au cours d'un don de sang ont été prises. De Bourem, Tidjani Touré pour Studio Tamani.
Situation de COVID-19 à la date de ce lundi 10 août. Sur 450 échantillons testés, les autorités sanitaires ont enregistré 6 nouveaux cas positifs, 7 patients guéris et 0 décès, ce qui fait au total 2573 cas positifs, dont 1969 guéris, 125 décès. Place à présent à l'actu COVID du jour avec Moumine Sendebou.
Merci de nous renouveler votre confiance et bienvenue dans ActiCovid. La crise due au coronavirus a impacté plusieurs secteurs d'activité au Mali. Pour s'adapter au contexte, des établissements d'enseignement universitaire ont initié des cours en ligne. Comment les étudiants perçoivent cette nouvelle méthode d'apprentissage et quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent? Élément de réponse dans ce reportage de Khalifa Goïta.
Seul dans sa chambre et devant son ordinateur, Mustapha Maïga, étudiant en journalisme, suit ses cours à distance. Pour lui, prendre des cours en ligne exige une certaine concentration. Toutefois, il estime que rester à la maison les protège des dangers de la circulation routière.
Il y a vraiment la concentration. On est là face au prof, il explique le cours. Si on a des questions, on pose. C'est une opportunité de précaution importante pour assurer qu'on limite les possibilités de transmission du virus. Aussi, ce que je peux ajouter, c'est un moyen de nous protéger face aux dangers de la circulation, parce que c'est pas tout le monde qui est prudent sur la route. Franchement, c'est bien passé.
Contrairement à Mustapha, d'autres étudiants n'apprécient pas cette approche de formation. C'est le cas pour Mohamed Kamisogo, étudiant en informatique de gestion.
La majorité des étudiants au Mali ne maîtrisent pas totalement l'outil informatique. Ça a été très difficile. Avec les professeurs, il y a eu beaucoup de difficultés. On n'arrive pas à comprendre les leçons. Quand on leur pose des questions, et non seulement ils prennent des temps pour nous répondre, mais aussi parfois ils ne répondent même pas. La situation n'a pas été solutionnée.
Rappelons que le gouvernement a décrété la fermeture des universités et grandes écoles depuis le 9 avril dernier à cause de la pandémie de coronavirus.
Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus au Mali, le gouvernement va octroyer plus d'un milliard de francs CFA aux personnes vulnérables et celles affectées par la maladie. À cet effet, 15 000 personnes bénéficieront chacune de 90 000 francs par transfert monétaire pour 6 mois. L'information a été donnée ce samedi par la direction régionale du développement social au cours d'une rencontre. Écoutons maintenant la question d'auditeur. Elle est répondue par professeur Daouda Kassoumenta, expert COVID-19 et spécialiste des maladies infectieuses.
Allô docteur, est-ce que la transmission de la maladie est possible à travers l'échange de produits entre un boutiquier et un client?
La boutique, quand elle n'est pas bien aérée, le virus en atmosphère confinée peut rester. Et s'il s'agit d'un porteur asymptomatique qui n'utilise pas les mesures barrières, il va de soi que le virus puisse se déposer notamment sur les cartons. Le virus peut rester pendant 24 à 48 heures. Si les mesures barrières ne sont pas respectées, il y a un risque. Mais quand la boutique est aérée, le vendeur porte son masque, vous-même que rentrer, descendre, vous lavez les mains, alors le risque est amoindri.
Ainsi s'achève ce numéro d'ActiCovid. À demain pour d'autres infos Covid. Pour vous protéger de la maladie, n'oubliez pas de porter régulièrement des masques.
Studio Tamani.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse et par l'Union européenne.
À présent, un tour dans nos régions. Les épreuves des examens de fin de cycle des écoles de formation en santé ont démarré ce lundi matin à Kai. Au total, 398 candidats répartis entre santé maternelle, infantile et santé publique vont composer. La première enveloppe a été ouverte devant les autorités scolaires. Les mesures barrières concernant le coronavirus sont respectées et l'examen va durer 5 jours. C'est la fin de cette édition présentée par Imran Akilo Maïga. Dans un instant, la question A.
C'est d'autres manières.